musique, etc. Deuxième partie, musique, etc. Une émission musicale de Radio Canu en direct le dimanche de 10h à midi. C'est l'émission de rentrée, c'est la deuxième partie. Vous pouvez retrouver les podcasts sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc. A noter également qu'il y a une page Facebook de l'émission qui s'intitule Radio Canu Musique, etc. Dans cette deuxième partie, on change de style. Je suis avec le groupe De Marbre. Et donc, deux membres sont présents. Il y a de ma gauche à ma droite, il y a Lou qui est à la basse et au chœur. Il y a Stéphane qui est au chant et à la guitare. Lou, Stéphane, bonjour et bienvenue à Radio Canu.
Bonjour.
Bonjour et merci.
Pour présenter donc De Marbre et votre album Feu de Veine.
Oui.
Qu'on va écouter tout au long de l'émission. Mais avant, peut-être, partons peut-être du principe que tout le monde ne vous connaît pas.
En effet.
Faire un petit historique du groupe. Vous êtes combien dans le groupe déjà? Et puis comment vous êtes connecté? Un peu un historique de Marbre. Combien de temps que ça existe et, comment le projet est né? Pardon, je te coupe.
Ouais, on existe depuis 2019 maintenant. À l'origine, qu'est-ce que.
À l'origine, il y a toujours eu 4 membres. Il y en a 2 qui ont changé entre-temps. Moi, je suis arrivé fin 2019, à peu près, durant l'automne 2019. Et à partir, je suis arrivé en plein milieu de l'écriture des morceaux de l'album que j'ai adapté à ma sauce à la basse. À la base, je suis guitariste. De Marbre, les gens de De Marbre qui étaient dans le groupe à la base sont des connaissances de connaissances, et j'ai appris pendant un moment qu'ils galéraient à trouver un bassiste. Du coup, je me suis proposé et j'ai découvert ce merveilleux instrument.
Ah, tu t'es mis à la basse, donc guitariste
pour De Marbre. Ouais.
D'accord.
À la base, je viens du à la guitare, du métal, tout ça.
D'accord.
J'ai un virage à 90 degrés pour explorer de nouveaux univers.
Et ouais, votre style, on parle de quoi pour De Marbre?
C'est un mélange de... Oui, de toute façon, c'est d'obédience post-punk avec des éléments noise qui sont ramenés peut-être par Edouard qui est à la basse six et au clavier. Il y a quand même plusieurs influences. On a un côté quand même assez psyché aussi. Avec des structures de morceaux qui sont pas forcément couplets-refrains. Donc ça part un peu pas dans tous les sens, non, mais les trois grandes lignes sont celles-ci, quoi.
Puis j'ajouterais, il y a un pari qui réussit, il y a beaucoup de textes en français.
Ouais.
Alors, c'est une poésie qui est assez complexe, sombre, très poétique, quoi. Une poésie poétique, ça va pas, mais enfin, des textes poétiques en tout cas.
Merci.
Sombre et un peu complexe, quoi. Mmh. Une sorte de labyrinthique, un peu, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Alors, ça pour les textes, le pari de chanter en français, du coup j'écoute quand même pas mal de choses en français, notamment de chansons, mais ceux qui m'ont vraiment donné envie d'utiliser le français et de me dire que c'est possible sur ce genre de musique sont les Young Gods, en fait. Ça, j'écoute ça depuis très longtemps. Je me suis toujours dit que de chanter en français sur ce genre de choses était possible, notamment j'ai pas une maîtrise de l'anglais incroyable. Et ça donne du fil à retordre, hein, quand même, hein, d'avoir choisi le français pour chanter là-dessus. C'est peut-être un peu plus exigeant. Après, je fais des choses assez minimalistes malgré tout.
Y a des groupes qui me disent que l'anglais, en fait, sonne très facilement.
On peut plus chanter.
Oui.
En anglais, c'est sûr qu'on peut. Ça se prête plus au chant. La langue est beaucoup plus malléable. Le français, je crois qu'il y a un côté plus scandé, parce que j'utilise une façon de chanter qui s'apparente pas vraiment à la chanson française, parce que la chanson française sur du rock, j'aime pas trop ça, donc j'essaye de trouver un peu autre chose que cet héritage de chanson française, en fait, que j'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'il faut faire autre chose sur ce genre de musique. Ça colle pas, selon moi, en général.
Ouais, il faut, ce que je disais, être sur un axe plus poétique, peut-être, sans doute, quoi.
Bah, c'est surtout la façon de sortir le texte, en fait.
Ah, oui.
Sur la diction.
D'accord.
C'est des choses plus scandées, peut-être. Le côté poétique, moi, en fait, c'est marrant, j'en lis, hein, j'aime beaucoup ça, mais je me suis pas dit que j'allais écrire de la poésie, pas du tout. D'ailleurs, j'essaye. C'est parce que j'utilise beaucoup d'images, en fait. C'est pas du tout des.
Il y a un côté romantisme noir, quand même. Dans
un peu, oui, ça vient de.
On est dedans.
Post-punk, de tout l'héritage post-punk. Des années fin 70-80, oui.
Donc, je vous propose d'écouter un premier morceau, peut-être. Donc, ouais. C'est De Marbre. On écoute l'album Feu de Veine. On va écouter donc le deuxième titre de l'album qui s'appelle Idole Invisible. Idole Invisible, je vais y arriver. Et donc, c'est De Marbre sur Radio Canu. Sur Radio Canu avec le titre Idole Invisible. Vous voulez évoquer ce titre, De Marbre?
Celle-là, c'est une des premières qu'on a composées, moi, que j'ai composé, que j'ai proposé au groupe, parce que c'est vrai qu'on, pour revenir à la genèse du groupe, avec le premier batteur, en fait, à la base, on n'était pas du tout parti pour faire du post-punk, on était deux au début. Quelqu'un qui voulait faire de la musique avec moi, qui avait vu mon ancien groupe. On était plutôt pareil. Lui, il était plutôt parti pour faire de l'EBM, de l'électro. Et j'avais pas trop envie de ça, parce que je sortais un peu de musique avec des machines. Je voulais quelque chose de plus live, de plus organique. Et donc, du coup, on a regardé toutes les démos que j'avais dans mon ordi, dans l'ordi, de tout ce que j'avais fait depuis des années. Il y a plusieurs grandes lignes, et dont un côté très rock, comme ça. de post-punk qui était jouable en groupe. C'est comme ça que le groupe s'est monté. Idol est un des premiers morceaux où on s'est dit que donc on pouvait jouer, faire un groupe autour de ce genre de musique. Assez frontal comme ça, c'est un de nos aspects. On n'a pas que ça, mais celle-ci, je trouve qu'elle représente quand même bien l'ensemble de du groupe, avec des sons un peu psychés, des sons de synthé, des chants français. Après, par rapport au texte, je me suis pas mal influencé d'un livre de Crisis qui s'appelle c'est une charge contre le monde du travail. Donc j'écris beaucoup par rapport à ce que je lis. Il y a des textes personnels, mais celle-ci, en tous les cas, vient de ce livre-là.
Et donc, qu'est-ce que tu as voulu dire dans le texte, en fait ? Quelques pistes de lecture ?
Les pistes de lecture, bah, c'est vraiment le... C'est sur le... Oui, comme je disais, sur le monde du travail, en fait, l'aliénation, le management actuel. C'était vraiment une... par rapport à ce bouquin que j'ai décortiqué. Souvent, quand je dis quelque chose, de toute façon, j'ai souvent un stylo à côté. Je suis un voleur pour les textes. J'utilise beaucoup de formules de ce que je lis. Ouais, je pique pas mal de choses, puis je fais des cut-up après, ou alors je les remanie, je rajoute des phrases, des pensées que j'ai. Voilà.
Mais ça donne cette chanson, Une de l'invisible. Et donc, Lou, à la base, t'es intervenu à quel moment dans le morceau ?
Ce morceau était déjà bien fini. Je pense que c'est parti de ceux que j'ai quasiment pas touché.
Ouais, celle-là, elle était assez. Ouais. Ouais, ce que je disais, c'est une des premières. Elle était déjà bien élaborée.
C'est un plaisir à jouer, en tout cas.
Vous la jouez toujours sur scène, celle-ci ?
Oui, l'instant, ouais. Elle est toujours là. Enfin,
ouais. C'est une de celles qu'on aime jouer, qu'on préfère jouer, je pense.
Un morceau qui pourrait introduire, enfin, un morceau qui introduirait bien les concerts, tout ça.
Ouais, des fois on commence par celle-ci, ouais.
D'accord, vous ouvrez avec celle-ci.
Bah, elle réveille, on va dire.
Ouais, oui.
C'est un morceau dans lequel on est assez bien quand on joue ensemble. Ça, c'est des fois c'est notre morceau de chauffe, donc.
On le répète depuis tellement longtemps.
Ouais, voilà. Donc on peut commencer le concert avec quelque chose, un morceau avec lequel on est à l'aise, plutôt que quelque chose de casse-gueule, c'est mieux.
On peut poursuivre. Je vous propose d'écouter Souvert.
Ouais.
Donc c'est toujours de marbre et c'est toujours sur l'album Feu de veine. C'est sur Radio Canu. We'll be right back. de Marbre avec le titre Sous Verre, toujours extrait de leur album Feu de Veine. De Marbre, on évoque ce titre,
oui.
Sur le plan musical et puis sur le texte aussi, qui se lance.
Sur le plan musical, déjà, je trouve que ce morceau met très bien en valeur le travail de notre ingé son qui nous a bien guidé vers les multipistes de guitare, tout ça.
Là, on peut,
David Champet.
David, ouais. Champet, ouais.
Bah, je vous laisse évoquer la chanson, puis après on peut parler du studio, parce que quand vous avez enregistré le
Oui, c'est vrai, mais juste là.
Oui, pardon.
Morceau qui a bien évolué au cours du temps, plus que le précédent en tout cas.
Surtout dans les structures rythmiques, c'est là
dans
où.
Dans les placements, dans les appuis.
Le groupe intervient, commence à arranger les morceaux, on commence à arranger les morceaux ensemble. Celle-ci, elle a quand même pas mal bougé, mais rythmiquement par rapport à la démo.
La démo est disponible sur YouTube, sur le YouTube de la chaîne YouTube de Demar.
Si on a
qui veulent comparer. Hein. À l'époque, je jouais pas dessus et du coup, il y a aussi ça qui a changé. Le fait, on sent l'ajout de production qui fait du bien.
Et donc, vous l'avez évoqué un peu, tu vas ajouter quelque chose sur le texte, oui.
Ah, sur le texte, bah alors celle-ci,
c'est très actuelle.
Chanson de saison, ouais, ça évoque effectivement la canicule et l'enfermement d'être en ville, de ne pouvoir partir l'été. Il y a une petite dimension sociale un peu cachée dans le deuxième couplet. C'est des images que j'utilise, j'ai jamais vraiment frontal et donneur de leçons.
Oui, c'est toujours
c'est toujours imagé, mais il y a quand même cette dimension là dans ce que j'écris.
Ouais. Morceau inspiré par 40 degrés Celsius à l'ombre.
Voilà. J'ai dû écrire ça un été d'enfermement. Du béton
entre deux douches. Je sais pas.
Entre deux siestes.
Et donc Lou l'a évoqué un peu. On peut passer à l'enregistrement. Ce disque dont on a écouté deux titres, De Marbre. Comment ça s'est passé pour le mettre pour l'enregistrer? Comment, avec qui vous avez travaillé? Comment?
Bah, en fait. À la base, on voulait pas spécialement faire un album, mais comme beaucoup de groupes, on s'est retrouvé pendant le Covid à enregistrer, vu qu'on pouvait pas jouer en concert, tout était à l'arrêt. Bon, bref, on a décidé, on avait assez de morceaux pour faire un album. Ces morceaux étaient prêts. On a fait appel à David Champet, donc qui avait enregistré déjà les démos, qui est un ami très talentueux et qui a produit l'album, en fait, qui a vraiment pris nos compos. Il avait une vision au niveau du son. On en a quand même pas mal parlé ensemble avec les influences de chacun, comment devait sonner l'album. On a choisi de faire quelque chose d'assez produit. Peut-être trop des fois, je sais pas, non.
C'est, ça a de la gueule.
Ouais, ça, on est assez contents. Et donc on l'a enregistré dans divers endroits. Le basse-batterie, on l'a fait justement en pleine canicule,
ouais.
À la Friche-Lamartine, à Villeurbanne. Ensuite, toutes les guitares et les voix ont été faites dans le studio de David, dans la Drôme. Donc ça a pris un peu de temps parce que
les allers-retours,
les restrictions diverses et variées liées au déplacement.
Oui, on était en été 2020 à ce moment-là.
Ouais. Donc on a mis un peu de temps à l'enregistrer du coup. Et donc c'est un album assez produit, oui, avec pas mal de stacks de guitare, d'overdub. On n'a pas fait un album live à part le bass-bat. Le prochain, peut-être qu'on réfléchira à le faire autrement, quelque chose de plus live.
Et tu allais dire quelque chose?
Non, absolument pas.
C'est du plaisir, ou avant tout, c'est une question que je pose souvent, mais avant tout du travail.
Ça dépend pour qui.
Ouais.
Je pense que pour David, ça va être évident d'être avec moi en studio, parce que je suis assez pointilleux et je veux absolument les prises parfaites. Et donc du coup, je peux refaire, je peux faire un nombre délirant de prises. Il faut m'arrêter parce que sinon, c'est à péter les plombs.
C'est l'inverse aussi. Hein. C'est toi, tu penses faire bien et lui dit non, on va en refaire une.
Ouais, des fois ça va pas des fois dans le même sens, mais donc du coup ouais, faut être patient avec moi. J'ai toujours la recherche du Graal là, bah, comme beaucoup de musiciens de toute façon, mais ça a été un plaisir parfois, oui. Ce que j'ai en fait ce que j'ai préféré moi, dans cet album, c'est donc je disais que David avait quand même pas mal produit l'album, mais il a fait aussi quelques arrangements, parce qu'il y a des moments où il voyait peut-être des interstices où on pouvait rajouter des choses, et on a joué ensemble, on avait déjà joué ensemble, parce qu'il est musicien aussi, il est assez malin, parce qu'il mettait des sons, des guitares avec des effets, il avait une vision de ce qu'il voulait, il me connaît en tant que musicien, donc il orientait en fait, il savait ce que j'étais capable de faire en faisant des arrangements, en me faisant improviser en fait en studio. Il y a plein d'arpèges, des choses qui sont sorties des sessions studio qui n'étaient pas écrites à la base. Donc du coup, l'album est né un petit peu comme ça, en avançant. Donc il est pour beaucoup quand même sur les arrangements, même si. Il avait des idées, mais il m'a très orienté au niveau des guitares. Hein. Voilà.
Bah, après, oui, c'était du plaisir, mais il y avait quand même une petite part de souffrance où on rentrait tous en studio pour la première fois, quasiment.
Moi, j'en ai déjà fait, mais...
Et du coup, moi qui découvrais le studio, c'était une découverte de mon niveau à la basse aussi.
T'en avais pas fait déjà avec Maillotiste, il me semblait.
Pas de studio. On enregistrait pendant le confinement, on faisait des lives, tout ça. Mais là, ouais, avec un ingé son qui entend bien toutes les petites imperfections et tout, c'était un peu démoralisant par moments, surtout qu'on enchaînait les sessions. L'enregistrement de basse s'est fait en une semaine, tous les jours de 9h à 22h.
Ah, c'était intensif, ouais, le basse-batterie, ouais. Surtout qu'il faisait. Donc voilà, c'était.
On avait loué la.
C'était à la friche, il faisait 40 degrés. On n'a pas diffusé les photos. Parce que. En slip de jouer. c'était une très glace. Non, mais
aujourd'hui, c'est un très bon souvenir.
Ouais.
Après, vous étiez comme dans de bonnes dispositions pour enregistrer.
Ouais,
pour enregistrer sous verre qui parle de chaleur. Voilà.
Ouais, voilà, c'était parfait.
Pas psychologique en tout cas.
Ouais, mais on avait peut-être le prochain, en tous les cas, je pense qu'il sera beaucoup plus préparé. Parce que vu le Covid, tout ça, tout était à l'arrêt. Donc, pour les répétitions, tout ça, ça manquait peut-être un peu de préparation et de vision globale. Donc on a mis beaucoup de temps en fait à réarranger les morceaux, ça n'a pas été si simple que ça. Après quand j'écoute le résultat, évidemment je vois les défauts, mais pour un premier album, je trouve qu'il sonne quand même pas mal du tout.
Ouais, c'est un très beau disque.
Merci.
Vous voulez ajouter quelque chose sur le studio de Marbre?
On peut passer...
On écoute You're the Ghost.
Ouais.
Et donc c'est De Marbre sur Radio Canu. de marbre sur Radio Canyon avec le titre
You're the Ghost.
On évoque ce titre, si vous voulez bien, de marbre.
Ouais, ouais. Alors celui-ci, il a été. J'avais l'intro à la, au début, j'avais vraiment cette intro, je voulais partir sur un morceau très. Allez, on va sortir les noms, peut-être plus un Dolls of the Trees, Nick Cave, ce genre d'ambiance. Et j'arrivais pas vraiment à le continuer. Et là, par contre, celui-ci est vraiment écrit avec Edouard Souillot, donc qui est, n'est pas là. Salut Edouard. Qui joue de la basse six et du clavier dans le groupe. Et lui a écrit un peu la suite avec moi. Il a débloqué en fait le morceau, il était un peu coincé. On trouvait que l'intro était super, marchait et tout. Et ce qui a donné en fait ce côté un peu progressif et changement de tonalité sur la deuxième partie. Il est en deux parties et c'est la deuxième partie, c'est quand même grandement Edouard qui a débloqué en fait le titre. Et après, on a composé ensemble la suite. Et il y a une part belle au synthé à la fin d'ailleurs, voilà, tous ces sont les, on a fait ça ensemble parce que sur l'album j'ai joué aussi des synthés, des programmations que j'avais déjà faites, donc voilà. Après, au niveau du texte, celle-ci, si je me, souvent quand je me planque derrière l'anglais, je me cache, hein, derrière l'anglais, c'est quelque chose, ce sont des morceaux assez personnels, les deux morceaux, il y en a une autre qui fait un peu résonance avec celle-ci qui s'appelle Sillon. Donc ces textes sont des thématiques très perso.
D'accord.
Mais imagées, mais voilà.
Je ne serais pas intrusif.
Non. On a tous compris.
Ouais, non, pas forcément.
Il faut écrire le texte.
Je crois que j'ai compris, moi.
Voilà. Très simple. Voilà. Chanson d'amour.
Ben ça, c'est faut le dire. Ça.
Donc c'est la chanson You're the Ghost.
Oui.
Le titre des évocateurs. Voilà. Vous avez parlé de la composition de cette chanson-ci, mais de façon générale, comment acheter de marbre, comment naissent les morceaux, comment vous travaillez, comment arrivent les morceaux, quoi, et puis comment vous les mettez du premier jet jusqu'à ce qu'on entend aujourd'hui. Là.
Souvent, ça commence par Stéphane qui bidouille sur le logiciel Ableton Live. Il a
pas que
ouais voilà, il a une ébauche de composition qui nous fait écouter, et à partir de là on arrive à créer un morceau plus complet avec chacun sa petite touche, sa petite patte.
Ouais, il y a des, après il y a des morceaux, par exemple Idole Invisible, quand j'écoute la démo, elle est, on a, il y a des morceaux qui sont très fidèles. Mais moi, on fonctionne comme ça, je propose des morceaux, j'en ai plein, il y en a qui sont pas retenus, hélas. on les arrange ensemble. Je trouve que le groupe, que ce soit maintenant Émile qui est à la batterie, Émile Casas, a des autres idées. On a déjà réarrangé les morceaux de l'album puisqu'on a changé de batteur, donc il les joue différemment. Mais chacun, je propose en fait les morceaux et chacun prend possession des lignes que j'écris et évidemment libre de les interpréter selon sa façon de jouer, sa sensibilité. J'impose pas grand chose en fait. Déjà, je suis très content d'avoir des musiciens qui jouent les morceaux que j'ai fait à la base, donc je vais pas en plus les emmerder.
Je tiens à dire, avec les morceaux déjà enregistrés, à force de les répéter, ils continuent un petit peu de changer.
À évoluer, oui, tout à fait, ouais, à force de les jouer en live, tout ça.
Ce que je trouve cool, c'est que c'est vivant et ça peut donner des spectacles différents à chaque fois.
Ouais, c'est pas figé, ouais, c'est vrai. Ouais.
Et par contre, t'arrives avec la ligne mélodique que le chant.
Ouais.
Et le texte écrit.
Alors,
le texte, il vient
souvent après. Ouais, le texte vient après.
Une fois que les arrangements sont en place.
Ouais, je fais pas mal de. Après, c'est. J'essaye, alors je privilégie le français, c'est mon premier réflexe, mais si j'y arrive pas, je peux partir sur l'anglais. Donc les lignes mélodiques, en tous les cas la voix, viennent souvent après. Là j'ai un morceau là que je suis en train de faire, bon, c'est très différent, j'ai vraiment pris guitare, voix, je fais une chanson, quoi. C'est chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. D'habitude, je fais plutôt du bidouillage, effectivement, studio, des expérimentations comme ça. Là, j'essaye peut-être de faire, en ce moment, d'écrire des choses pas plus simples, mais changer la façon de composer. Ouais. On est déjà en train de composer le deuxième, de toute façon.
Oui, on est déjà bien parti pour sortir quelque chose ensuite.
Vous avez déjà une date à peut-être...
Ah non, absolument pas.
Non, non, on s'est dit, la dernière répète, on s'est dit que ce serait l'été bien prochain, effectivement, serait
tous les morceaux soient prêts pour exister.
Ouais, bah on en a déjà pas mal, parce qu'on a, sur scène déjà on en joue 4, il me semble, qui ne sont pas sur Feu de Veine. Et on en a une cinquième, voire une sixième. On est dans le dans
ça
la
bande d'après.
Ouais. Ouais, ça avance. Mais on en a déjà 4 de prêtes pour le 10 d'après. Ouais.
Et j'ai envie de dire, pour ce qui est de la composition aussi, c'est que ça fonctionne bien par pair entre Steph et Edouard et Émile et moi. Steph et Edouard sont très dans la texture avec Edouard et ses synthés, sa guitare basse 6. Toi, la guitare tes pédales de partout là, qui bave de énormément. Et Émilie et moi, on a Émilie fait de la batterie et moi je joue de la basse et on tient vraiment, on tient la baraque.
Ouais, en fait, de marbre, c'est un peu ça. Ouais, c'est les deux plus jeunes tiennent la baraque rythmique et il y a deux vieux qui planent par dessus avec des effets divers et variés. Oui, Edouard, je parle de toi. Tu es le deuxième.
Deuxième vieux.
Vous voulez rajouter quelque chose sur la composition avant qu'on écoute New Moment?
Allez, bah New Moment.
New Moment.
Ouais.
Donc je rappelle que c'est De Marbre qu'on écoute leur album Feu de Veine, et donc on écoute la chanson New Moment De Marbre. We'll be right back. de marbre avec le titre New Moment, extrait de, toujours de leur album Feu de Veine. Ma question qui revient, on évoque ce titre de marbre sur le plan musical et sur le plan du texte.
Ouais. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est un hybride parce qu'il y a un côté un petit peu noise punk au début avec des riffs, des placements rythmiques qui sont pareils, qui viennent peut-être plus d'Edouard.
Oui.
À la base, elle était plus post-punk. Là, t'as des choses.
J'aime beaucoup cette ambivalence de ces couplets très scandés, très rythmés. Très carré et ce refrain complètement aérien avec des nappes de synthé par-dessus.
Bah à la base, c'est pareil, celui-là il a vraiment été transformé en studio. Avec David, on a commencé à mettre des voix et on s'est rendu compte qu'on voulait faire un. On a essayé, en tous les cas, je pense que c'est réussi, mais on a fait un refrain assez shoegaze. La période My Bloody Valentine, tout ça, il y a un clin d'œil là-dedans, dans ce refrain. Qui est effectivement en opposition avec le reste du morceau, qui est assez brut comme ça, avec beaucoup de disto, avec des riffs assez carrés. D'avoir un refrain planant comme ça, c'était une volonté. Ouais. Et au niveau du texte, c'est un peu plus abstrait.
Moi, j'ai toujours pas compris.
Non, on n'en a jamais parlé.
Si, mais j'ai toujours pas compris.
T'as pas écouté. Non, c'était au niveau du texte, ça m'est venu à une pièce de théâtre qui était, il me semble, L'ennemi du peuple d'Ibsen. J'étais. C'est un texte, quand même, qui est une charge contre la bourgeoisie bien établie. Et je voyais le parterre, c'était que des gens comme ça, en fait. Et je me disais, c'est marrant, ils viennent voir. Ils doivent se sentir concernés parce qu'on les critique en direct. C'était ça le sujet de base, tout bêtement.
D'accord.
Dimanche matin.
C'est compliqué. Ce morceau particulièrement, je le trouve compliqué à
expliquer.
À
ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie aussi des fois de tout expliquer dans les détails, parce qu'évidemment il y a des.
Puis chacun est libre d'interpréter ce qu'il a envie aussi.
Un peu.
Et puis les gens projettent ce qu'ils ont envie aussi.
C'est un peu aussi sur le voyeurisme, ce morceau New Moment. Il est un peu là-dessus.
Sinon, dans quoi vous avez baigné, dans quel univers musical, en tant qu'auditeur, qu'est-ce qui a nourri votre vie d'auditeur de musique et de musicien, tous les deux?
C'est une émission entière, là.
Moi, j'ai commencé par le métal extrême, principalement. C'est en vieillissant, on va dire, que j'ai découvert ce que les années 80 avaient à proposer en rock indépendant, new wave, gothique, tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Le groupe qui nous réunit tous à peu près, c'est. Il y en a deux, je pense, c'est The Cure et Killing Joke.
Ouais, on aime bien ces groupes, tous les quatre. Ouais,
alors, pour les textes, on en avait déjà parlé tous les deux, c'est. Il y a les Young Gods qui reviennent un peu. Ouais. Même si moi j'ai découvert un peu les Young Gods en rentrant dans De Marbre. Et...
Ouais, moi je suis vraiment fan des Young Gods, c'est sûr. C'est un groupe très important, ouais. Mais c'est dans le sillon du post-punk, en fait, tout ça. Moi, c'est ça, les premières musiques que j'ai écoutées ado et qui m'ont vraiment construit et qui m'ont donné envie de faire de la musique, en tous les cas, effectivement, c'est tout le post-punk plutôt anglais. Et après, tout ce qui découle de l'after-punk, donc la musique industrielle, on parle des Young Gods, mais toutes les choses comme Neubauten, tout ça, j'ai énormément écouté ce genre de choses. Après la musique électronique, j'avais 20 ans dans une période de des free parties, donc je suis allé voir ce qui se passait là-dedans. J'ai un peu plongé aussi là-dedans. Ouais, ça rajoute des bibis, parce que je suis un peu de techno moi, à côté chez moi. En fait, quand je sais pas quoi faire, je fais de la techno avec des synthés. Mais, y a ça. Je suis parti vraiment. J'ai écouté pas mal de prog, moi, de krautrock. Quand j'ai découvert le krautrock, c'était la même période que les Teufs. Moi, j'aimais bien les afters. J'aimais bien écouter Cannes, en fait.
Cannes, c'est magnifique.
Ouais. C'est un de mes groupes préférés. Ouais, Cannes, c'est absolument génial. Donc toute la scène allemande des années 70, évidemment, qui préfigure le post-punk, en fait. Neu, tout ça. Les albums de Bowie, ça c'est aussi une grosse influence pour moi. la trilogie berlinoise de Bowie, toutes ces choses-là.
J'avais lu dans un article, il disait Kahn a inventé le post-rock avant que le rock ait fini de s'inventer. Le...
Ouais, c'est ça, mais c'est incroyable, ce batteur, là, il ça préfigurait énormément de choses.
Ouais, ça, vraiment.
C'est d'une richesse absolument incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Donc il y a ça.
Il y a aussi un truc que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'on vient tous les quatre, je trouve qu'on vient d'univers extrêmement différent et que je pense que ça ajoute un petit plus à notre musique. Émile, à la base, c'est plutôt un quepon et aujourd'hui punk hardcore et pas forcément, mais je sais qu'il a des influences rockables aussi par ses proches. Et du coup, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que l'énergie qu'il dégage quand il joue, le plaisir qu'il a à jouer à faire des trucs. Il cherche pas à faire compliqué, mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien.
Ouais, c'est fouillé quand même des fois. Ouais, j'aime beaucoup sa façon de jouer. Ouais, ce nouveau batteur là, très bien.
Et Edouard.
Ah bah lui, il vient.
C'est la personne qui me fait découvrir des groupes à 60 vues sur YouTube, qui est excellent, que personne ne connaît, des groupes du coin.
Avec des clips improbables.
Voilà. Genre à jouer au Grand Zéro, truc comme ça.
Ouais, c'est plutôt ça. Mais il vient plutôt du hardcore, lui. Plutôt, il évoque souvent, lui, son amour de jeunesse, on va dire, que c'est Lofofora. Il jouait dans Sténopé, qui était un groupe qui ressemblait un petit peu dans mon souvenir, à
influence néo-métal de l'époque.
Ouais, voilà, c'est ça. Il a joué aussi dans Horses.
Rock indé, noisy, très.
Voilà, ça, on va dire. Edouard, il vient plutôt de là, lui.
Et voilà.
Où on va faire un peu une sorte de panorama. Vous voulez rajouter quelque chose ou on écoute
par rapport aux influences, sinon on en a pour longtemps. Parce que on peut parler de jazz aussi, on peut parler de musique symphonique.
J'étais très bref sur les miettes, j'ai dit métal extrême, mais de rock progressif aussi énormément. Métal progressif, j'ai énormément écouté.
Ah non.
J'ai énormément écouté un groupe qui s'appelait OPS et à chaque fois j'en étais content d'ailleurs.
Ah bah oui, parce que je vois il y a des liens avec des.
Ils ont les mêmes influences que toi, on va dire. Au niveau du rock prog, je parle de King Crimson.
Crimson, tout ça, le côté. Parce que c'est pas forcément un gros mot, hein, le rock progressif. On parlait de Cannes. Bon, cette période-là, c'est vrai que j'aime beaucoup les groupes comme Crimson, toutes ces choses-là des années 70 anglaises. Ça aussi, j'en écoute pas mal, ouais. C'est vaste.
On revient à De Marbre.
Ouais.
On n'écoute aucun exit.
Allez.
Let's go.
De Marbre sur Radio Canyon.
Tendre mes racines, au tombeau de
de marbre avec le titre Aucun exit, extrait toujours de leur album Feu de Veine. Vous évoquez plutôt ce titre de marbre, Lou, Stéphane.
Les paroles les plus récentes de l'album, on va dire déjà.
Ouais, alors les paroles, ces paroles-là, je les ai co-écrites d'ailleurs avec un ami écrivain qui s'appelle Stéphane Jardin, qui m'a quand même aidé sur quelques titres. Des fois, il réarrange, il me suggère des images. Donc c'est vraiment celle-ci, c'est un texte qu'on a écrit à deux. Ouais. J'en suis très content d'ailleurs. Mais pareil, c'est personnel, mais en même temps très imagé. J'ai brouillé les pistes volontairement. C'est des clins d'œil très personnels. Je pense, mais ça peut parler. C'est ça là aussi la poésie.
Vous avez les textes dans la pochette.
C'est vrai que, enfin moi je. Il y a plein de choses qui me venaient en écoutant plusieurs fois l'album, il y a plein de choses qui viennent, quoi. C'est une poésie qui est très ouverte, quoi.
Oui. Bah oui, de toute façon, quand on lit une poésie ou quand on écoute des gens comme Bachung, ça parle alors qu'on ne voit pas vraiment de.
Oui, mais à contrario, si je prends le rap, il y a des choses qui sont très, très dans le réel, qui t'injectent une dose de réel où il n'y a vraiment pas de place pour l'imagination. C'est un exemple, quoi.
J'évite. Moi, je préfère, effectivement, comme disait tout à l'heure.
La démarche inverse.
Ouais. Avec une dimension sociale, quand même, mais. C'est imagé, faut lire les choses. C'est pas de. Oui, c'est moins terre à terre que certains textes qu'on peut entendre, mais. Bref.
On n'a pas parlé de la scène. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut. Donc, il y a un concert qui vient là, dans pas longtemps.
Ouais, le 11 octobre au Sonic. On passe en première partie de Invasion, donc l'ancien.
Chanteur de Refused. Là, on est très content.
Là, vraiment, là.
J'imagine.
On est super content d'avoir cette date.
On a cette date, on en cherche d'autres.
On en cherche d'autres, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas de tourneur. Il y a tout à faire. De toute façon, dans Demarbre, on a autoproduit notre premier album. On a joué quand même dans toutes les salles de rock de Lyon. On aimerait bien un petit peu aller ailleurs. De toute façon, il y a tout à faire, que ce soit trouver un label. Des dates, mais c'est compliqué tout ça à trouver. C'est beaucoup d'énergie et souvent de copinage qu'on n'a pas de réseau.
Faut pas rien lâcher, quoi.
Ouais, faut persévérer.
Il y a des centaines de mails qui sont partis déjà à la recherche de concerts et c'est pas toujours très.
Des centaines et des centaines.
Oui, voilà.
Voilà, c'est.
Sans toujours réponse, du coup.
Non, c'est très difficile, ouais.
Et ceux qu'on ne contacte pas, ils nous appellent de même, notamment Radio Canu.
Ouais, ou Nicolas qui nous fait passer avec une Vegano Sonic. Ouais. Voilà, c'est sympa d'avoir des.
Ça, c'est cool.
Des gens qui nous contactent sans qu'on demande, c'est bien.
Ça prouve qu'il y a quand même un retentissement.
De toute façon,
les gens commencent à vous connaître.
On s'en rend pas compte.
On en voit quand même pas mal de choses. Mais on a, par exemple, sur le net, on a quand même des critiques qui sont vraiment très bonnes.
J'ai lu, qui sont excellentes.
Ouais, ça fait plaisir. On galère à trouver des concerts, mais par contre, on a de bonnes critiques sur l'album. Je crois qu'ils les lisent, je sais pas, le programmateur.
C'est toujours plaisir.
Et quand on vient voir De Marbre sur scène, on assiste à quoi ?
À 4 personnalités différentes, déjà. C'est ce que disent tous les gens qui nous voient, je trouve. Moi, je suis content de jouer des lignes de basse pas trop compliquées comme ça, je saute de partout.
Comment ça, pas trop compliqué ?
On va dire que je suis très fort dans ce cas, si tu veux.
On pourra avoir un aperçu, sinon bientôt, on a enregistré une live session au mois de juillet du titre Idole Invisible, la première que tu as passée. Et on a tenu à faire quelque chose de très brut. Un plan séquence et pas d'overdub, donc vraiment ça sera
plan séquence finalement en steadicam pour voir un peu tout le monde,
ouais.
Et pour donner un aperçu pour vendre un peu ce qu'on peut donner sur scène,
ouais, complètement, ouais. Parce qu'on n'a pas voulu faire quelque chose avec des overdubs, avec des effets, des vidéos rajoutées. Ça sera quelque chose de brut qui représente vraiment ce qu'on fait sur scène. Donc ça, on va sortir ça courant
dans les semaines qui arrivent, avant le mois d'octobre.
Ouais. Et on en est
sur notre chaîne YouTube de Marbre.
Voilà.
Bah, on peut faire votre communication. Ça fait, on peut, pour ceux qui ont écouté cette émission notamment et qui aiment votre musique, pour vous suivre, pour écouter votre musique.
Sur les plateformes.
Toutes les plateformes de streaming musical, on est de partout.
Voilà,
l'album est aussi en entier sur YouTube, sur Bandcamp. On essaie de communiquer sur Facebook et Instagram. On essaye, parce qu'on n'est pas toujours très inspiré. Ouais. Mais voilà, suivez-nous sur Facebook et Instagram.
Et Bandcamp, oui, l'album est trouvable et on peut l'acheter sur Bandcamp. Et voilà, donc, on l'a pressé en CD.
De marbre, c'est en deux mots.
Oui.
De marbre.
Exactement.
Exactement.
Il y a en musicien groupe, il n'y a que vous.
Ouais.
Je trouvais que vous.
On a vu un autre qui s'appelait De marbre, mais sans les voyelles.
Ah, d'accord.
Ouais, il y en a un autre aussi qui s'était appelé comme ça, mais après qu'on ait posté des choses, je sais pas s'ils sont arrêtés du coup, je sais pas, mais quelques temps après avoir posté la première démo, il y en a d'autres qui sont appelés comme ça, mais je crois qu'ils ont arrêté, je suis pas sûr.
Trop dur,
pour l'instant, en même temps, c'était assez évident, c'était tellement galère de trouver un nom de groupe, mais celui-ci n'était pas pris quand on a
le logo, on a décidé de s'appeler. Le logo, c'est marqué de haut en bas De marbre.
Voilà.
Il faut on tape De marbre, Feu de Veine, et on trouve
voilà. Il y a toutes les chroniques, et puis on tombe sur le Bandcamp. Puis évidemment, les plateformes de streaming.
Spotify,
on est présent.
Voilà, je resitue. Donc, depuis 11h05, vous écoutez musique, etc. Deuxième partie, l'émission de rentrée. Donc, j'étais en compagnie de deux membres, des quatre membres du groupe De Marbre. Il y avait Lou, le bassiste et choriste, et Stéphane, le chanteur-guitariste. De Marbre, merci beaucoup d'avoir ouvert la saison en ma compagnie.
Bah, merci à toi, merci de nous avoir invités.
En compagnie des auditeurs, bien sûr. Et on va se quitter sur un chef-d'œuvre, je trouve.
Merci beaucoup.
Le chef-d'œuvre de l'album. Non, mais c'est un petit chef-d'œuvre, quoi. Non, un chef-d'œuvre. J'assume. Pourquoi vous moquez de moi?
Ah non, non, non,
on s'y attendait pas.
C'est flatteur. Non, oula, pas de moquerie.
Le morceau qui clôt l'album et qui donne son nom à l'album, qui s'appelle Feu de Veine, qui dure.
7 minutes 12.
Mm-hmm. Avant qu'on va pas reprendre la parole, donc est-ce que vous voulez donner une piste de lecture sur ce morceau avant qu'on se dise au revoir?
Morceau le plus crowd.
Ouais, voilà le morceau.
Le plus dans l'idée basse batterie, tire la baraque et fait la même chose pendant 7 minutes et les deux zigotos qui font des sons avec leur pédale et leur synthé.
Ouais, avec un texte très influencé de Henri Michaud, voilà, Misérable Miracle. J'ai piqué pas mal de choses dans ce livre et ça donne un petit peu aussi notre côté, comme tu dis, kraut, psyché. On a des morceaux, celui-ci en tous les cas sur scène par exemple, il est extensible, on improvise dessus. On en a un autre qu'on joue sur scène qui n'est pas sur l'album. On essaye d'avoir des moments de liberté comme ça où par signe, par regard, on sait qu'on va passer à d'autres passages. Et donc, du coup, ça nous tient à cœur d'avoir ce côté un peu space rock, kraut. Parce qu'on a, de toute façon, il y a des éléments dans tous les morceaux, mais ce Feu de Veine représente vraiment le côté qu'on peut improviser, qu'on peut avoir en tous les cas.
Une grosse partie improvisée au milieu de.
Ouais.
De morceaux.
Le sans filet.
Ça, et Feu de Veine, oui, qui donne son album avec sa magnifique pochette faite par toi.
Fait par, la pochette. Ouais, c'est vrai que pochette, c'est Cyril Bess qui a fait cette magnifique pochette. J'aime beaucoup le travail de. C'est un ami, il faut aller voir son site, hein, Cyril Bess.
Qui donne bien son.
2SE. Et qui avait déjà fait le visuel de la démo.
Les démos sont sur YouTube avec chacun un visuel différent.
Voilà.
Et c'est des images satellites retouchées pour faire du dessin avec.
Ouais, c'est des images satellites, les parallélides, c'est ça qui. Il met des visages en fait sur des parcelles prises par satellite pour montrer l'empreinte de l'homme sur la planète.
Allez voir son
long
travail.
Débat, après, on n'a peut-être pas le temps. Voilà.
Voilà, c'était musique, etc. avec De Marbre. De Marbre, merci beaucoup,
merci
à très bientôt.
À
merci à toi.
Et on se quitte avec un dernier morceau donc de Marbre, comme tu l'as dit, le morceau qui donne son nom à leur album Feu de Veine. Donc c'est le titre Feu de Veine. À très bientôt, Feu de Marbre.
Feu de Marbre. De Marbre, je me trompe à la fin.
À bientôt, De Marbre, et on se quitte avec Feu de Veine.
Merci.
Merci à vous.
Le corps.
Voilà, c'était Deux Marbres avec leur morceau Feu de Veine. Vous avez pu écouter de 10h à midi 18, musique, etc., l'émission de rentrée. En première partie, Iron Deficiency. Et en deuxième partie, Deux Marbres. Donc, les podcasts, vous pouvez les retrouver sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc., dans la journée. Notez également qu'il y a une page Facebook de l'émission qui s'intitule Radio Canu Musique, etc. À la semaine prochaine et un très bon dimanche à toutes et à tous. Générique.